Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ils sont plus de 1500 Français à revenir d'un voyage exceptionnel, 1500 jeunes revenus avec des étoiles dans la tête et dans le cœur, et pour cause, ils ont passé quelques jours avec le pape François et près de 600 000 autres jeunes, quelques jours inoubliables pour beaucoup, pour des JMJ en forme d'exercice spirituel, comme le titrait le journal La Croix, quelques jours pour ne pas s'installer dans un pragmatisme gris, pour comprendre que la vie n'est pas une application et devenir des influenceurs du 21e siècle, selon les expressions toujours choc du pape François. Retour sur les JMJ de Panama, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Avec autour du plateau, on a quand même réussi à trouver une jeune. Ce sont des espèces rares parce que 1500 jeunes à l'échelle de la France, c'est pas tant que ça. Mais c'était loin, c'était au moment des examens et en plus ça coûtait cher. En tout cas, on est ravis de l'accueillir, Marceline Wilson. Vous étiez déjà au micro d'Isabelle O'Neill ce matin dans la matinale. Vous êtes donc jeune professionnelle et JMJiste, bonjour.
Bonjour.
Autour du plateau aussi, sœur Nathalie Albert, vous êtes sœur du Cénacle et responsable du réseau Jeunes Pro du diocèse de Toulouse, et vous rentrez du Panama avec la crève, on peut le dire. Bonjour.
Bonjour.
Et le père Arnaud Franck, vous êtes curé de la paroisse étudiante, auteur d'un ouvrage paru aux éditions Bayard, Mettez la pagaille. Bonjour.
Bonjour.
Et j'allais l'oublier, pardon, Nicolas Senez, avec nous au téléphone, que je remercie vivement, journaliste donc au journal La Croix, correspondant à Rome, et qui aussi était du voyage. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Je ne sais pas si vous avez attrapé froid, mais sœur Nathalie Albert, pour le commencer par des choses très triviales, me disait qu'il faisait 40 degrés et que 6 degrés, la différence, c'était choc. Alors, avez-vous les mêmes difficultés thermiques en arrivant à Rome?
Ah oui, d'autant que, étant donné que les journalistes, nous qui suivons le pape, on a un dressing code et donc il faut garder une veste et plutôt s'habiller en sombre. Donc, non seulement il faisait chaud, mais en plus, on en rajoutait.
Voilà, donc on vous souhaite bon courage en espérant que la différence de température est quand même un peu plus faible qu'à Paris. Donc, j'ai parcouru et vécu en partie les JMJ donc, de Panama grâce au journal La Croix et par vos articles. Vous titriez dans un de vos articles que c'était des JMJ en forme d'exercice spirituel. Est-ce que vous pouvez commenter ces JMJ, semble-t-il, sur un nouveau format, nouveau modèle, peut-être plus resserré, plus profond, je ne sais pas si on peut dire ça. Quel est votre sentiment en revenant ?
Oui, moi j'étais très frappé par la façon dont le pape François a parlé aux jeunes. Alors, on parlera plus tard hein, du fond du discours, mais sur la forme, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la façon dont le pape a découpé ses interventions au fur et à mesure des jours. Et c'était vraiment frappant. Il a fait aux jeunes qui étaient là des exercices spirituels. Hein, il a fait la retraite de 3 jours des exercices ignatiens aux jeunes qui étaient là, et c'est vrai que ça tranchait peut-être avec un certain gigantisme qu'on avait pu connaître avec des JMJ précédentes. Là, c'était plus, on avait titré avant de venir, des JMJ à taille humaine, et c'est vraiment ce côté plus humain, peut-être avec moins de monde, parce qu'on est dans le Panama est un petit pays, hein, 4 millions d'habitants, relativement difficile d'accès, hein, les jeunes des pays autour ne pouvaient venir qu'en bus, sur des routes aussi difficiles d'accès. Donc, ça ne facilitait pas les grandes foules. Hein. Ce n'est pas comme si ça se passait dans une mégapole hein, comme à Rio en 2013. Donc, c'est vraiment un autre format. Et ça facilitait justement ce côté peut-être plus conversation entre le pape et les jeunes. Moi, j'étais frappé de la façon dont le pape était très à l'aise, dont il leur parlait presque comme un curé en chair, vraiment engageant la conversation avec eux. D'ailleurs, les jeunes qui étaient là, moi j'ai rencontré des jeunes qui me disaient « Mais le pape nous parle vraiment comme un curé peut nous parler dans l'homélie à la messe. » Donc ça, c'était frappant. Et en même temps, donc en leur parlant, il a justement évité un côté peut-être un peu populiste. On avait vu dans ses discours, parfois, il y avait des dialogues qui étaient un petit peu prévus avec les jeunes, mais il n'en a pas abusé, il en a même enlevé pour d'abord, par exemple, à la messe d'ouverture, hein, c'était très, très fort, il a enlevé tout un dialogue où il y avait des réponses des jeunes, oui, qui pouvaient se faire, pour aller plus vers l'introspection, pour les porter à rentrer en eux-mêmes, à se poser ces questions-là et à les méditer en eux-mêmes. Donc ce côté effectivement de retraite, hein, où il les a amenés petit à petit à trouver en eux, à discerner pour trouver en eux les réponses à ce thème, hein, qui était la ce Winmarie, qui était le thème des JMJ, ben, il les a petit à petit accompagnés, hein, comme un véritable discernement, pour que chacun trouve en lui ce Winmarie à sa propre vocation.
Nicolas Senez, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler du Panama, donc de ce pays où se sont passées ces journées mondiales de la jeunesse, donc un pays d'Amérique centrale, superficie qui est à peu près, on va dire, 13% de la France, donc c'est un petit pays, en tout cas pour nous, qui ne sommes pas déjà un immense pays, un pays avec à la fois, enfin plein de contrastes, avec à la fois une forte croissance, ouvert à la mondialisation avec le fameux isthme de Panama, une pauvreté importante, entre autres chez les jeunes, beaucoup de velléité de départ de ces jeunes. Est-ce que c'est un pays de contraste comme l'image que l'on a souvent de l'Amérique latine ?
Oui, alors c'est un pays contrasté, c'est un pays où il y a de la pauvreté, relativement moins qu'on peut le voir dans d'autres pays d'Amérique latine ou d'Amérique centrale. C'est un pays où il y a de l'argent, hein, alors il y a des pauvres, hein, il y a une forte pauvreté. On a traversé des quartiers aussi pauvres, des bidonvilles. Mais c'est un pays, on va dire, relativement moins pauvre que le reste de l'Amérique latine. C'est un pays beaucoup moins violent aussi, hein, par rapport à des pays comme le Honduras, par exemple, où on ne peut pas sortir, hein, dans la rue dès qu'il fait nuit à cause des bandes armées qui rançonnent. Là, c'était pas du tout le cas. Mais c'est un pays aussi qui est marqué par la corruption. C'est un pays.
On en parlera après. Hein, à peine arrivé sur le tarmac.
On arrive à Panama, on est frappé par cette frénésie de construction. On faisait la remarque avec un collègue. On dit mais c'est SimCity cette ville. SimCity, c'était ce jeu électronique. On construisait sa ville et il y a les petits immeubles qui se construisaient. Blablabla. Et là, on le voit et c'est assez flagrant. C'est un pays qui a été longtemps un paradis fiscal, hein, qui a été connu pour
les fameux Panama Papers. Hein, c'est voilà, le dis pas autre chose.
Et ça se voit. Enfin, le pape d'ailleurs a parlé de cette corruption quand il a fait son discours devant la société panaméenne et les responsables politiques du Panama qui étaient tous là, qui ont applaudi à tout rompre ce qu'il a dit sur la corruption, alors que la plupart d'entre eux étaient quand même des gens qui avaient touché de l'argent de grandes entreprises. Hein,
avant qu'on parle de la corruption, Nicolas Senez, peut-être est-ce que vous pouvez nous redire pourquoi probablement ces JMJ, le pape François, a dit oui pour ce voyage au Panama dans un discours d'introduction de ces JMJ, Monseigneur José Domingo Ulao Mendieta, qui est donc archevêque de Panama, a eu ces mots en disant que il était venu en Amérique centrale pour rencontrer cette jeunesse défavorisée, voilà, ces pauvres, on va dire, d'Amérique latine, qui sont des sans-voix, pour être avec l'Église un peu la voix des sans-voix. Est-ce que c'est un peu le cœur de la raison de la venue du pape François en ce lieu ?
Oui, c'est l'Amérique latine, on a toujours tendance à la prendre comme un bloc assez monolithique, c'est pas vrai du tout. Il y a des Amériques latines et l'Amérique centrale est vraiment très particulière. Hein. C'est par exemple des gens beaucoup moins expansifs qu'on peut le voir au Brésil ou ce qu'on a pu voir au Pérou. C'est un catholicisme donc moins expansif. C'est des pays qui ont vraiment des problèmes beaucoup plus particuliers. Hein. La proximité des États-Unis fait que c'est un... Par exemple, la question de la migration vers les États-Unis est beaucoup plus forte. Alors, le Panama est une terre de passage, hein, on le voit, hein, des gens qui viennent du sud de l'Amérique, qui traversent pour ensuite remonter vers les États-Unis. Voilà, c'est vrai que le pape avait envie de mettre en avant cette Amérique centrale qu'on connaît moins. Lui-même, par exemple, n'était jamais venu au Panama, alors que c'est un latino-américain qui a été engagé dans le conseil épiscopal latino-américain, mais c'est un pays où il n'avait jamais mis les pieds. Mais voilà, il voulait mettre en avant cette Amérique centrale qui a compté beaucoup pour lui. Hein, la figure de Mgr Oscar Romero, qu'il a canonisé il y a quelques semaines.
Et qui était un des saints patrons des JMJ, oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir sur la corruption ? Alors pardon, on laisse pas beaucoup de place aux auditeurs, mais on profite de votre présence pour cette introduction un peu, on va dire, géopolitique aussi, ou en tout cas voilà, plus large. Et après, on se penchera sur des discours chocs. Il y en a beaucoup. Hein. Ce matin, Isabelle Lenay citait vous n'êtes pas l'avenir, mais le maintenant de Dieu, le hub de l'espérance, les influenceurs, enfin toute cette métaphore que le pape François a eue à l'occasion d'une veillée sur les réseaux sociaux à l'adresse des jeunes. Mais si on revient sur ce discours, donc à peine arrivé, si j'ai bien compris, son discours aux autorités, donc il a tapé fort en parlant donc de la corruption, disant entre autres, les jeunes demandent aux adultes, mais spécialement à tous ceux qui ont un leadership dans la vie publique, de mener une vie conforme à la dignité et à l'autorité qu'ils revêtent et qui leur a été confiée. Pas très surprenant de la part d'un pape d'avoir ce genre de politesse, mais que diriez-vous, vous qui étiez sur place, de la vigueur de ce discours ?
Ben, c'est vrai que la corruption est un problème extrêmement grave en Amérique latine. Hein. Il y a en particulier un scandale dont on parle depuis quelque temps, qui s'appelle du nom d'une entreprise de bâtiments brésilienne qui s'appelait Odebrecht. Et cette entreprise a inondé d'argent l'ensemble des pays d'Amérique latine, l'ensemble des politiques des pays d'Amérique latine, pour obtenir des marchés publics. Hein. On racontait que dans cette entreprise, il y avait un service de 50 personnes qui étaient en charge de la caisse noire et d'arroser les politiques. Un exemple, hein, alors le président panaméen actuel a été épinglé pour avoir reçu, au cours de sa campagne électorale, de l'argent de cette entreprise brésilienne. Alors il explique que c'était dans un cadre tout à fait légal de dons normal pendant les campagnes électorales. Certes, mais on voit à quel point cette entreprise a eu une influence tous les marchés publics en Amérique latine, et c'est devenu un véritable problème, cette corruption, qui empêche finalement tout développement, qui empêche toute libre concurrence, et qui empêche finalement des jeunes qui voudraient s'engager, entreprendre et tout ça, qui sont totalement bloqués dans leur volonté de vivre honnêtement de leur travail. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu, pour l'Amérique latine, sans doute la corruption, le principal frein au développement des différentes économies de la région. Et le pape est latino-américain, il connaît bien la situation. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel il alerte en permanence. Et donc là, effectivement, il profite de son discours aux autorités, à la société civile, pour en remettre une couche hein, et alerter à nouveau sur le problème. Alors c'est vrai que c'était très étonnant de voir à quel point il était applaudi par les hommes politiques.
Oui, est-ce qu'on voyait quand même des petits rictus au coin des lèvres qui disaient
alors,
un peu leur malaise?
On était de dos, donc on les voyait de dos, donc on avait du mal à voir, mais on était frappé quand même de leurs applaudissements nourris. Et ça m'a rappelé, moi j'étais en train de lire, je prends toujours quand je vais sur les voyages du pape, un livre en rapport avec l'endroit où je vais. J'avais pris Le Tailleur de Panama de John le Carré, ce roman d'espionnage, et où justement il a cette phrase à un moment, il dit la chose que l'on trouve le moins au Panama, c'est la culpabilité, et même ceux qui arrivent en l'amenant la perdent très vite. C'était assez. Et effectivement, on voyait que, en leur parlant de corruption, on avait quand même l'impression que les gens qui étaient, les politiques qui étaient en face, se sentaient assez peu coupables de la corruption dont parlait le pape François.
Nicolas Sonnez, avant que vous nous quittiez, est-ce que si vous deviez retenir un moment qui vous a particulièrement frappé ou marqué de ces JMJ, avant qu'on creuse un petit peu ces discours que le pape François a eu à l'adresse de cette jeunesse, qu'est-ce que vous retiendriez comme moment ?
Vraiment beaucoup, mais moi je crois que j'étais très marqué par la très belle veillée qu'il y a eu le soir dans la samedi soir sur ce grand terrain à l'extérieur de Panama, là, ce Campo Jean-Paul II. Il y avait vraiment une ferveur, effectivement, bon, parlera sans doute tout à l'heure, hein, de ce, cette très belle homélie du pape, où il a filé la métaphore technologique des influenceurs. Et on sentait vraiment que les jeunes recevaient, étaient touchés par ce discours. Et voilà, on sentait la profondeur avec laquelle il la vivait à ce moment-là. Et c'était très beau parce que, voilà, on a eu ce gigantisme des JMJ, peut-être sous Jean-Paul II, la volonté qu'avait impulsé Benoît XVI de revenir à des moments d'intériorité. On se souvient de ce silence.
De l'adoration à Madrid. JMJ de Cologne, oui, aussi.
Voilà. Et finalement, François, il continue dans ce chemin vers l'intériorité des JMJ, qui étaient impulsés par son prédécesseur, et en mêlant un petit peu les deux côtés de la ferveur des jeunes et de l'intériorité. Et voilà, je crois que il y a des gens qui ont écrit sur peut-être l'échec des JMJ. Moi, que les JMJ c'était fini, je crois pas. Je crois que les JMJ, effectivement, tel qu'on l'a connu sous Jean-Paul II, effectivement, c'est fini. Mais je crois que c'est plus les mêmes générations qui sont là. Les jeunes qui étaient sous Jean-Paul II ont pris 20 ans de plus. Et aujourd'hui, c'est une autre jeunesse qui n'a pas connu Jean-Paul II et qui vit les JMJ à sa manière. Et je crois qu'il faut justement les laisser vivre leur JMJ à leur manière, sans essayer de plaquer en disant « Ah ben non, nous, c'était pas comme ça. »
Et c'était mieux avant.
Nous, c'était pas comme ça, et c'était bien comme c'était à notre époque, et c'est bien aussi la façon dont ils le vivent à leur manière. Et ça, faut le reconnaître, c'est leur JMJ, c'est plus les nôtres.
Merci beaucoup, Nicolas Sonnez. On va faire une première pause musicale, et puis on va retrouver nos autres invités pour se plonger dans quelques-uns des discours du pape François, quelques-unes de ses conversations, comme vous disiez, de ce curé de paroisse de la planète, comme on l'appelle aussi de temps à autre.
l'Église, Emmanuel Pella.
Retour sur les JMJ de Panama, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Était avec nous au début de l'émission, et on leur remercie, Nicolas Sonnez, journaliste donc au journal La Croix, correspondant de ce journal à Rome et qui était donc du voyage du pape, dans l'avion du pape comme on dit. Marceline Wilson, qui est une jeune professionnelle qui était JMJiste. Sœur Nathalie Albert, sœur de Notre-Dame, de la communauté Notre-Dame du Cénacle, et responsable du réseau Jeunes Pro du diocèse de Toulouse, et le père Arnaud Franck, curé de la paroisse étudiante, auteur d'un ouvrage récemment publié, « Mettez la pagaille », où il reprend les mots du pape François, paru aux éditions Bayard. On va donc dans cette deuxième partie un petit peu se promener essayer de faire écho de ces moments forts que vous avez vécu, sœur Nathalie Albert et Marceline Wilson, puisque vous étiez toutes deux et que là-bas et que le père Arnaud n'y était pas, de ces conversations, mais évidemment pour se remettre dans l'ambiance, comme Isabelle, je ne vais pas résister à l'envie de passer un extrait de l'hymne des JMJ. Je ne le dirai pas en espagnol, mais en français, c'est « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Voilà, ils ont la crève, mais quand même, ils continuent à danser un petit peu autour du plateau. Marceline, est-ce que cet air vous trotte dans la tête depuis que vous êtes revenue des JMJ de Panama, ou est-ce qu'au contraire, à force de l'entendre, vous n'en pouviez plus?
Ah non, on s'en lasse pas. Je continue à l'écouter, à toujours avoir la même joie.
Qu'est-ce qui vous a... Allez, un petit mot quand même si on prendra plus le temps avec vous. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces journées mondiales de la jeunesse? Là, on va essayer de se plonger dans quelques-unes des grandes rencontres. Entre autres, cette rencontre du début, donc c'était le 24... c'était une cérémonie de bienvenue. Après, on va parler de la veillée du samedi 26, et puis de la messe de clôture du 27, puisque c'était les trois grands moments. Est-ce que vous, c'est ces moments-là qui vous ont marqué? Avec quel souvenir particulier vous revenez?
Oui, ces moments ont été très très marquants spirituellement. Je garde aussi de très bons souvenirs des Panaméens, de l'accueil qu'on a eu, de la joie de nous accueillir, de l'hospitalité. Alors, de ses habitants.
Dites-en-nous un peu plus, parce que c'est vrai qu'on pouvait lire dans la presse des JMJ avec un accueil hors norme. Alors je me dis, en souriant avec mon esprit critique mal placé, mais à chaque fois c'est un accueil hors norme. Mais à quoi ça ressemblait? Il paraît que par moment les gens klaxonnaient dans la rue, vous saluaient. Racontez-nous un peu.
Oui, c'était vraiment ça. Chaque fois qu'on sortait, qu'on était en marche avec le drapeau, on avait les personnes qui nous disaient bienvenue, qui applaudissaient, il y en avait qui klaxonnaient, qui nous saluaient. Ils nous souhaitaient tout le temps la bienvenue, ils nous proposaient à boire, et on sentait vraiment qu'ils étaient heureux de nous accueillir.
Et ce, donc, enfin tout le monde, je veux dire...
Tout le monde.
Voilà, vous étiez
dans le métro,
attendus comme...
dans la rue, on était vraiment
comme des
attendus.
Invités par tout le monde, oui.
C'est ça. Et on voyait qu'ils se mettaient vraiment en quatre pour nous accueillir. Les chauffeurs de bus qui détournaient leur itinéraire, qui patientaient parce qu'on ne comprenait pas, on n'arrivait pas à communiquer. Tout le monde s'arrêtait pour nous aider quand on était perdus. C'était vraiment l'hospitalité chez tout le monde.
Est-ce que ça vous a frappé d'être dans un pays qui semblait chrétien et où du coup tout le monde se réjouissait en fait de la venue du pape aussi? Est-ce que vous avez senti cette différence d'atmosphère peut-être avec la France?
Ah oui, totalement. On sentait déjà la joie chez les Panaméens d'accueillir cet événement, de pouvoir recevoir le pape. Mais aussi, ils étaient très fiers de voir tous ces jeunes de différents horizons venir dans leur pays. Et on sentait vraiment cet enthousiasme.
Alors, si on se penche dans quelques-unes des rencontres, donc la première avec le pape, c'était donc la cérémonie de bienvenue. C'était le jeudi 24 janvier. Le pape François a eu plusieurs expressions dont il a le secret. Celle-là, on peut pas dire que ça soit une grande nouveauté dans la bouche du pape François. Il a parlé de la culture de la rencontre, partant en fait de cette réalité des JMJ. Vous nous enseignez que se rencontrer ne signifie pas s'imiter, ni penser penser tous la même chose ou vivre tous de la même manière, faisant et répétant les mêmes choses, écoutant la même musique ou portant le même maillot de la même équipe de football, a lancé le pape François. Et un peu plus tard, un peu plus loin, il a parlé de cette culture de la rencontre. Est-ce que ça vous a frappé, sœur Nathalie Albert?
Oui, pour moi, ça a été assez fondamental pendant toutes ces JMJ. Cette culture de la rencontre dont le papa parlait, c'est celle que vivent les jeunes, en fait. Quand je les voyais aller à la rencontre des autres JMJistes ou des Panaméens, enfin, c'est sans arrêt qu'on était interpellés par un groupe, par l'autre, des Québécois, des Brésiliens, des Portoricains, vraiment le monde entier se retrouvait là et voulait se rencontrer. Je trouve que ça, pour moi, c'est un témoignage très fort d'une capacité de se rencontrer et d'aller au fond des choses. C'est pas du tout superficiel, c'est une culture de la rencontre qui va jusqu'à accueillir la différence de l'autre. Et je trouve que ça rejoint bien le message de notre évêque ici, l'unité dans la diversité.
C'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement la fête tous ensemble, mais
oui,
on est réunis par, quoi, par plus grand que soi.
Oui, c'est ça. C'est vraiment le Christ qui nous tient ensemble. Il y a un accueil total de l'autre dans sa différence.
Je vois le père Arnaud Franck sourire. Ça vous plaît, ça, père Arnaud Franck? C'est un de vos chevals de bataille. On peut pas dire que le pape François est toujours bonne presse d'abord sur ce sujet auprès de certains chrétiens en France. C'est son fameux construire des ponts, aller à la rencontre de l'autre. Quel serait votre commentaire sur cette culture de la rencontre?
Oui, c'est toujours le même pape qui parle, passer d'une culture du déchet à la culture de la rencontre. Et à la fin de cette cérémonie d'accueil, il disait justement que le Panama était un pays symbolique qui unissait les mers, mais pendant les JMJ, c'était le pays...
Unissait les mers, il faut peut-être expliquer, c'est qu'il y a l'isthme du Panama, au cœur du Panama, et on peut passer de l'Atlantique au Pacifique.
Voilà, voilà. Et donc il a profité de cette image pour dire que pendant quelques journées, ce pays devenait le symbole de la culture de la rencontre entre tous les peuples et aussi qui pouvait unir les rêves. Le pape François, on y reviendra, mais fait appel aux rêves que portent les jeunes. Et justement, c'est cette rencontre avec les personnes qui sont peut-être différentes de nous, mais qui, dans la charité chrétienne, tout cela est uni. Et c'était très beau aussi de voir qu'il avait cité le pape Benoît XVI et en demandant à la foule, mais vous savez qui a dit ça? Et ben c'est le pape Benoît XVI. Alors tout le monde fait un grand coucou pour dire bonjour au pape qui nous regarde à la télé. C'était aussi une belle image de la culture de la rencontre et de cet esprit de famille qu'il veut instaurer de plus en plus dans l'Église.
Alors à propos de cette culture de la rencontre, donc si je continue la citation, la culture de la rencontre, leur a-t-il expliqué, est un appel et une invitation à oser garder vivant un rêve commun, un grand rêve capable d'abriter le monde, ce rêve pour lequel Jésus a donné sa vie, un rêve qui circule dans nos veines, continue le pape François, qui fait frissonner le cœur et fait danser chaque fois que nous l'écoutons, aimez-vous les uns les autres. Ça aussi c'est du pape François le rêve. Je me souviens de la rencontre avec les... lors du pèlerinage Fratello avec 5000 personnes en précarité, il s'était adressé à eux en leur disant « Ayez des rêves ». Quel serait votre commentaire sur ce rêve qui fait frissonner et danser sur Nathalie Albert?
Ah bah, c'est Jésus, ce rêve commun. Et quand j'ai repris un petit peu ce moment-là avec une des JMJistes, elle me disait, bah oui, c'est ça, Jésus est le rêve commun à tous. On peut s'ancrer dans ce rêve-là et c'est un rêve qui devient complètement concret. Et voilà, le pape nous invite vraiment à vivre une spiritualité incarnée qui s'est fait chair en Jésus. Un rêve, c'est pas une idéologie ou quelque chose qui... C'est un rêve qui devient réalité en Jésus.
Oui, et puis dès le premier jour, le pape François a fait écho au synode des jeunes qui a eu lieu donc en octobre dernier, qui a été un grand événement de l'Église. Et... Qui ne s'est pas arrêté en octobre dernier. Le pape François est très désireux que les jeunes puissent marcher ensemble, puissent se rencontrer. Et c'est ça aussi le rêve, alors là on peut dire peut-être de François, le rêve du pape, c'est de voir les jeunes continuer à marcher ensemble. De ne pas, même s'il y a des chutes, de ne pas rester à terre, mais d'être relevé et de pouvoir se rencontrer. Et c'est vrai que c'est assez unique de voir tous ces jeunes du monde entier se rencontrer et vivre ensemble pendant quelques jours. Et c'est pas juste, on y reviendra tout à l'heure, quelque chose de cool, pas juste un moment festif comme ça où on fait la fête, on danse et on se fait arroser par les pompiers parce qu'il fait trop chaud. Bon. Mais non, parce que là, il y a quelque chose de très important qui se vit. Il parle de la nouvelle Pentecôte qui peut changer le monde. Donc pour lui, le rêve, c'est pas quelque chose, un songe de rêver d'un monde meilleur. Non, c'est rêver d'un monde meilleur, mais comme disait Sœur Nathalie, dans la réalité, à partir des jeunes tels qu'ils sont.
C'est un rêve qui peut s'accomplir, à vous entendre.
Un rêve qui devient réalité.
Alors si on continue cette rencontre, le pape François en effet a parlé de l'église parallèle. Il a eu comme toute une méditation autour d'une église qui s'adresserait d'abord ou surtout uniquement aux jeunes. Je le disais aussi en préparant l'émission que les évangéliques ont beaucoup de succès en Amérique latine, au Panama comme ailleurs, peut-être moins qu'ailleurs, et ils sont souvent appréciés par la jeunesse parce qu'ils ont entre autres des liturgies beaucoup plus festives, en tout cas c'est ce que j'ai lu. Le pape François dit la chose suivante, il a mis en garde contre le risque de créer une église parallèle un peu plus divertissante ou cool dans un événement pour les jeunes avec tel ou tel élément décoratif comme si cela vous suffisait pour vous rendre heureux. Il n'a pas été un peu rabat-joie là, Sœur Nathalie Albert, le pape François ?
Non, je crois pas. Les jeunes ont une profondeur telle que, je crois justement en disant ça, ils les respectent. D'ailleurs, il poursuit son message, j'ai pas le texte sous les yeux, mais il dit « si on pense comme ça, ça ne serait pas vous respecter ».
Penser ainsi ne serait pas vous respecter, ne pas respecter ce que l'Esprit nous a dit à travers vous.
Voilà, c'est ça. Et je crois qu'en disant justement que les jeunes sont invités non pas à vivre une église parallèle, cool, mais une église profonde qui respecte ce que chacun est dans son être même, au niveau de la profondeur de sa prière, au niveau de son engagement dans la vie. Voilà, c'est ça l'appel du pape, et c'est ça auquel chaque jeune est invité.
Marceline Wilson, qu'est-ce que vous avez pensé de cette église parallèle, cette église divertissante ou cool ? Est-ce que vous avez tout de suite souscrit aux propos du pape François, ou est-ce que vous avez tiqué ?
Oui, moi j'adhère aux propos du pape. Je trouve, comme l'a dit la sœur Nathalie, qu'il y a effectivement ce besoin de côté festif pour les jeunes, mais il y a aussi un profond désir d'intériorité. Il y a un profond désir de trouver un sens à sa vie et cette invitation à vivre ce rêve commun dans le Christ, cet amour concret, répond vraiment au désir des jeunes aujourd'hui.
Père Arnaud Franck, une église parallèle, je ne dirais pas que la paroisse étudiante est une église parallèle, mais en tout cas à Toulouse a été fait le choix, encore unique en France, je crois, hein,
oui.
Voilà, qu'il y ait une église qui soit dédiée au cœur de la ville aux jeunes. Est-ce que c'est une manière de trouver un équilibre entre ce besoin, on va dire, de... j'ai utilisé le mot de faire communauté un peu particulière des jeunes, de créer un espace un peu différent tout en n'étant pas une église parallèle. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet ?
Oui, dès le début ici à Toulouse, il y a eu le désir de créer un espace de communion visible pour les jeunes et donc d'instituer cette paroisse, mais aucune paroisse n'est fermée sur elle-même et donc c'est aussi un appel à s'ouvrir à l'extérieur. Et d'ailleurs, nos projets nous poussent à nous ouvrir de plus en plus vers d'autres paroisses pour que les jeunes, un petit peu comme les GMJ, c'est-à-dire que, bah oui, les GMJ, c'est fait pour les jeunes, pour quelques temps, mais après, ils sont envoyés en mission. Et la paroisse étudiante, elle ne veut pas être parallèle, elle ne veut pas être quelque chose, d'ailleurs, voilà, un mouvement à l'extérieur de l'église. Non, c'est l'église, pendant quelques temps, ils sont ensemble, et l'objectif, c'est qu'ils puissent aimer comme le Christ, aimer dans le Christ, et porter cette bonne nouvelle à tous. Et donc,
parlez-nous de la caravane missionnaire, pour ceux qui ne connaissent pas.
Exactement, voilà, nous partirons...
Je lis dans vos pensées maintenant.
C'est fantastique, et la culture de la rencontre. Nous partons à Luchon cette année.
C'est quand même moins cher que d'aller à Panama. Hein.
Oui, mais il y a la neige et c'est sympa. Bon. Et donc le curé et toute la communauté chrétienne, tout le monde est heureux de nous accueillir. Ils se mettent en quatre pour héberger les jeunes. Et puis les jeunes vont pouvoir, chacun selon sa spécificité, c'est la richesse de la pastorale étudiante un petit peu partout en France, hein, de ces groupes très divers. Donc il y aura des temps de louange, il y aura des temps d'évangélisation, de visite des malades, l'animation des messes, aller à la rencontre des personnes sur les marchés et dans les bars. Et je dirais, c'est quand même une bonne nouvelle.
Mais pourquoi vous prenez cette illustration ? C'est donc le moyen, tout en étant, on va dire, en communauté avec les jeunes, de ne pas être une église parallèle, c'est ça ?
Oui, et c'est vivre cette culture de la rencontre que le pape François veut, par l'inspiration de Dieu, instaurer dans l'église. C'est-à-dire que ça va faire du bien aux jeunes d'aller à l'extérieur porter la bonne nouvelle aux communautés, et la communauté chrétienne sera très heureuse aussi de voir que, eh bien, il y a des jeunes qui veulent exprimer leur foi concrètement dans leur vie. Donc voilà.
Avant de parler de la messe de clôture et donc de cette ou de la veillée pardon et de cette discussion que le pape François a eue, donc où il a filé des métaphores à propos des réseaux sociaux, vous vouliez qu'on parle d'une rencontre avec les prêtres que le pape François a eue. Je crois de mémoire que c'était le 26. Samedi 26, où le pape François, alors j'ai noté cette expression très forte, il dit parfois que dans la vie des pasteurs, de ceux qui sont engagés, très profondément engagés dans la vie de l'Église, qui ont donné leur vie pour ça, s'installe comme une forme de pragmatisme gris, laissant entendre à un autre endroit une forme de lassitude de l'espérance. Je crois que ce discours vous a frappé, Père Arnaud Franck. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Oui, et puis même deux autres événements qui, je pense, sont importants d'être cités ici, parce que effectivement, il y a les grands événements, et puis le pape François, on le sait, est très attentif, comme un curé, comme un pasteur, à vivre des petits événements. Il y en a eu trois, qu'on pourrait dire un peu marginaux, mais en fait qui ont fait vraiment partie du programme des GMJ. Il a rencontré des jeunes en prison, où il a une très très belle méditation sur la culture de l'adjectif. Et puis surtout, avec cette belle image aussi, si tu penses que tu n'arriveras pas à t'en sortir, alors gifle-toi. Parce que c'est comme un ver qui pourrit le fruit. Non, ouvre la fenêtre de ton cœur. Enfin, et puis tout un message sur la miséricorde. Et aussi, avant de partir, après avoir vu les volontaires, il a voulu aller à la rencontre de personnes malades du sida. Je dirais que quand même ça, c'est assez significatif aussi, de l'attention des plus pauvres. Et il y a eu cette rencontre aussi, assez historique, parce que c'est la première fois, je crois, qu'un pape célèbre la consécration d'une église. Et donc, il a consacré la cathédrale de Panama, et il en a profité pour rencontrer les prêtres et les consacrés.
Et il a consacré le maître-autel aussi ?
Oui.
En prenant son temps, en faisant ça avec beaucoup d'amour, j'ai cru comprendre.
Et là, il a offert une magnifique méditation très ignatienne de relecture de notre ministère, où il a parlé des deux fatigues. La première fatigue, celle du Christ, celle que connaissent beaucoup de religieux, consacrés, prêtres, parce qu'il y a beaucoup de travail, parce qu'on est pressé de toutes parts, parce qu'on porte les fardeaux de beaucoup de personnes. Et comme le Christ, on cherche des personnes à qui on demande « donne-moi à boire ». Et donc un appel à trouver un puits où on pourra aussi, en faisant mémoire des passages de Dieu dans notre vie, nous ressourcer. Voilà, quels sont les puits où peuvent s'abreuver les consacrés et les prêtres. Ça, c'est une fatigue, on va dire, qui est inhérente à notre vie, à la réalité de la suite du Christ. Mais il y a une autre fatigue. Et là, il a parlé de la pire hérésie, la lassitude de l'espérance. Finalement, de croire, et là je le cite, que nos communautés chrétiennes n'ont plus rien à dire ou à apporter à ce monde qui est en train d'être en germe, en gestation.
Penser que le Seigneur et nos communautés n'ont rien à dire et à apporter à ce monde nouveau qui est en gestation.
Voilà. Et donc ça, c'est la pire hérésie qui soit, c'est son expression, de dire, bah, finalement, tellement de choses changent aujourd'hui, la société n'a plus de repères, et nos communautés ne parlent plus, bah, en fait, on n'a plus rien à dire, on va fermer la porte, et puis on va mettre la clé sous le paillasson. Et donc c'était très beau qu'ils puissent réveiller, qu'ils puissent être attentifs aux prêtres qui sont fatigués, aux consacrés, aux religieux. Il avait déjà dit dans une homélie du Jeudi Saint, mais aussi de rappeler qu'il y a cette fatigue qui est plus mauvaise, et donc un appel à nous recentrer dans le Seigneur et à demander à boire.
Je citerai juste un passage que j'ai trouvé, il y en a beaucoup de passages magnifiques, hein, à propos de la rencontre avec ces jeunes détenus. Le pape François a dit la chose suivante: une société tombe malade quand elle n'est plus capable de faire la fête pour la conversion de ses enfants. Une communauté tombe malade quand elle vit de la médisance étouffante, condamnatoire et insensible. Voilà, une société tombe malade quand elle n'est plus capable de faire la fête pour la conversion de ses enfants. Avant qu'on fasse une deuxième pause, on va donc parler de cette veillée. où le pape François s'est révélé bon connaisseur des réseaux sociaux, ou presque. Il a eu donc de belles expressions à ce sujet. Il a parlé entre autres de Marie qui n'était pas une grande influenceuse. Alors sœur Nathalie Albert, donnez-nous quelques pépites de cette veillée.
Si, justement, ce qu'il a dit, c'est que Marie, même si elle n'était pas influenceur, comme on peut l'entendre aujourd'hui avec les termes des réseaux sociaux, finalement, elle a eu une énorme influence, elle a bouleversé l'histoire. Voilà, donc, il a parlé de Marie comme influenceur, voilà, et il a demandé à chacun des jeunes s'il voulait aussi être influenceur comme Marie l'a été en entrant dans le projet de Dieu. Voilà, pas un influenceur des réseaux sociaux, Marie n'était pas sur les réseaux sociaux, et pourtant, elle a bouleversé l'histoire.
La jeune de Nazareth ne sortait pas sur les réseaux sociaux de l'époque, elle n'était pas une influenceuse, mais sans le demander ni le chercher, c'est elle ça. Est devenue la femme qui a le plus influencé l'histoire. Voilà. Il a même utilisé cette expression au mari, l'influenceuse de Dieu.
C'est ça.
Ça vous a fait sourire ? Vous êtes dit qu'il fallait que vous mettiez à la page sur les réseaux sociaux quand vous avez entendu le pape François ou pas ?
Oui, parce que ce que j'aime beaucoup dans sa manière de parler, c'est qu'il se fait très très proche des jeunes en reprenant leurs termes. Quoi. Il sait se mettre. Il parle de
La vie n'est pas une application.
Voilà, cette vie n'est pas un salut suspendu dans les nuages, voilà, le fameux cloud. C'est ni une application nouvelle, ni plus un tutoriel. Voilà, mais c'est une histoire d'amour qui se tisse avec nos histoires. Et je trouve que c'est être vraiment complètement ancré dans l'histoire, dans le réel, dans le concret de nos vies, dans le quotidien. C'est là qu'on peut rencontrer Jésus.
Allez, on va faire une courte deuxième pause et puis on va donner davantage la parole à Marceline qui, je crois, va continuer de commenter cette veillée qui l'a particulièrement touchée.
À Auch 89.6.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Retour sur les JMJ de Panama, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient autour du plateau, Marceline Wilson, jeune professionnelle JMJiste enrhumée, revenue des JMJ de Panama où il faisait quoi, 40 degrés à l'ombre, c'est ça?
Oui, 30-35 degrés à l'ombre.
30-35 degrés, merci Toulouse. Sœur Nathalie Albert, sœur de Notre-Dame, la communauté Notre-Dame du Cénacle, responsable du réseau jeune professionnel du diocèse de Toulouse, et le père Arnaud Franck, curé de la paroisse étudiante à Toulouse, était avec nous au début de cette émission, Nicolas Senez, journaliste à Rome pour le journal La Croix. Alors Marceline, vous allez un petit peu nous dire ce qui s'est passé. Alors il ne s'agit pas de vous demander une confession, Si on doit vous situer, donc vous êtes jeune professionnel, vous êtes ingénieur, vous êtes parti donc avec votre fiancé au JMJ de Panama. C'était vos premières JMJ. Je fais un petit résumé parce que ceux qui ont écouté la matinale ont peut-être déjà entendu tout ça. Vous fréquentez en général un groupe de prière charismatique, Bethesda, à Toulouse, et puis vous êtes assez engagé donc dans la pastorale des jeunes professionnels. Si on doit revenir sur les moments forts de ces JMJ, vous nous avez dit donc vous étiez très frappé par l'hospitalité des gens. C'est vrai qu'à vous entendre, en fait, c'était pas seulement ceux qui accueillaient qui étaient plein d'hospitalité, mais j'ai l'impression que c'était presque tout un pays ou tout un peuple. Hein. C'est parfois comme quand on va à Lourdes, on a l'impression que toute la ville se met en mouvement. Là, ça semblait être à une plus grande échelle. Mais vous, il y a surtout deux moments qui vous ont bien touché. Racontez-nous ces deux moments.
Alors effectivement, il y a deux moments qui m'ont, il y a beaucoup de moments qui m'ont touchée. J'en retiens deux très importants. Le premier, c'était la messe d'ouverture des JMJ, donc où on s'est retrouvés au bord de la mer, voilà, avec cette vue imprenable sur les gratte-ciel de Panama et ces milliers de jeunes qui étaient réunis tous ensemble. Donc on avait réussi à se frayer un chemin et à s'installer avec le groupe de Toulouse. Et on était au milieu de diverses nationalités. Et cette messe était un grand moment fort pour moi. Je pense que j'ai un peu vécu ce que c'est la communion fraternelle, parce que tout le monde vivait la messe dans sa langue, répondait, priait, récitait le Notre Père dans sa langue. Et pourtant, c'était un seul message.
Et vous me disiez qu'il y avait quoi, une dizaine de nationalités, c'est ça?
Oui, rien qu'autour de nous, il y avait au moins une dizaine de nationalités. Et de pouvoir tous prier ensemble, de vivre cette unité dans la diversité. C'était un message fort. Et je pense que le pape, après, dans ses différentes interventions, a essayé de nous exprimer ce lien, cette rencontre de l'autre, et qui se vit vraiment concrètement, comme dans cette messe.
Alors, c'est souvent, on se dit que parfois c'est pour ça presque que l'Église organise ses JMJ, c'est pour vous faire cette expérience de l'universalité de la foi. Est-ce que vous pourriez un tout petit peu plus préciser, parce que c'était vos premières JMJ, donc vous êtes retrouvés comme ça avec une dizaine de nationalités différentes. Qu'est-ce qui vous a, en fait, si on creuse un petit peu plus, qu'est-ce qui vous a vraiment touché là-dedans? C'est quoi? C'est de vous dire que ce en quoi vous croyez concernait tout le monde? C'était...
Oui, alors c'est de pouvoir d'abord se dire que sans connaître ces personnes, sans connaître leur culture, en étant complètement différents, on a quelque chose qui nous unit. Donc c'est possible d'être tous frères. C'est possible de partager quelque chose de commun sans parler la même langue, sans même connaître les différentes cultures des uns des autres. Et d'arriver à avoir cette prière tous ensemble, voilà, c'est un moment fort d'amour et de solidarité.
Le deuxième moment qui vous a frappé, racontez-nous, je crois que c'était un moment d'adoration pour le coup.
Oui, le deuxième moment, c'était pendant la veillée. Donc on s'est retrouvés... en pleine nuit, voilà, une belle nuit étoilée d'ailleurs, avec des moments de chant, de prière, la prière du pape, et ensuite on a eu le début de de l'adoration eucharistique
avec le pape.
Ça a été un très fort moment de le voir, voilà, lui aussi s'agenouiller, se mettre en adoration devant le Christ, et surtout l'Eucharistie était portée par Marie. C'était la statue de Santa Maria de l'Antigua qui portait dans ses mains l'Eucharistie. Et ça, pour moi, c'était une image forte parce que ça résumait tout ce qu'on avait vécu pendant ces JMJ. Comment, en suivant Marie, on peut arriver au Christ. Voilà. Et qu'on soit loin ou qu'on soit près, on arrivait vraiment à voir l'Eucharistie qui était scintillant, brillant, comme une étoile, comme celle qui était au-dessus de nos têtes. Et il y avait une atmosphère de paix. On était, voilà, plus de 500 000 jeunes. Il y a eu du silence complet. Et on sentait vraiment la paix, le désir de prier, d'être tous ensemble. Et voilà, ça reste un moment très fort pour moi.
Pour finir, quand je vous ai eu au téléphone pour essayer de parler un petit peu de l'après, je propose que On aille un peu plus loin dans le commentaire, si on reste toujours sur cette veillée, du pape François autour donc du thème des JMJ. Rappelez-nous, sœur Albert, le thème des JMJ, j'ai un trou.
Je sais dire en espagnol maintenant. Me voici, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est la réponse de Marie, oui de Marie.
La réponse de Marie au moment de l'Angélus. Donc le pape François, lors de cette veillée, au-delà des petites piques à l'adresse des jeunes, en disant que la vie n'est pas une application, n'est pas plus un tutoriel, etc., il a rappelé donc que le salut que le Seigneur nous offre est une invitation à faire partie de l'histoire d'amour qui se tisse avec nos histoires. Et donc, il a lancé cette adresse à la jeunesse. Dire oui au Seigneur, c'est embrasser la vie. Il vous a invité à dire oui. Je crois même à un moment qu'il vous a posé la question, non ? Et vous avez tous répondu, les 500 000 jeunes ont répondu oui. Vous vous rappelez de ce moment où il vous a demandé de dire oui ?
Oui, je me rappelle de ce moment. Mais on a répondu surtout parce qu'on ressentait l'envie de dire oui, pas juste de répondre. Ce que le pape nous disait, il nous a invités à vraiment, comme la Vierge Marie, dire fiat et à dire fiat tous les jours. Il a dit que ce oui n'empêchait pas les difficultés, mais que ce désir de servir, ce désir de dire oui, allait nous donner la force, par l'amour du Seigneur, de prendre des risques et d'accomplir la mission tous les jours.
Est-ce que vous pourriez expliquer davantage, au regard donc de cette dévotion mariale que vous avez ? Vous m'avez raconté donc qu'il se trouvait que depuis quelque temps, vous aviez pris l'habitude de prier le chapelet tous les jours. Parce que apprendre à dire oui, comme ça, pour certaines personnes, ça peut rester un petit peu vague. Le pape François dit donc cette phrase, hein, « Dire oui au Seigneur, c'est oser embrasser la vie », je la répète. « L'amour du Seigneur est plus grand que toutes nos contradictions, nos fragilités, nos petitesses. Mais c'est précisément à travers nos contradictions, nos fragilités, nos petitesses qu'il veut écrire cette histoire d'amour. » Ça veut dire quoi, apprendre à dire oui, en fait ? Si vous deviez l'expliquer, je ne sais pas, à quelqu'un qui ne comprend pas ce que ça signifie.
Bah, moi, ce que j'ai retenu, ce que je garde dans mon cœur aujourd'hui après ces JMJ, c'est que apprendre à dire oui, c'est accepter de servir. Moi, quand je suis partie au JMJ, dans le thème, j'ai été très touchée par que tout m'avienne selon ta parole, parce que j'avais un désir de connaître la volonté du Seigneur et de suivre la volonté du Seigneur dans ma vie. Et je dis qu'en revenant des JMJ, je suis plutôt interpellée par « me voici, je suis la servante du Seigneur ». Donc c'est en comprenant que l'amour du Seigneur se vit concrètement, et la manière de le vivre concrètement, mais c'est de se mettre au service de l'autre, c'est d'accueillir l'autre, c'est de rencontrer l'autre. Et c'est comme ça qu'on dit oui. Je pense que ce désir de vivre cet amour de manière concrète, il a dit Dieu est concret parce que l'amour est concret. Et si on veut vivre cet amour concrètement, mais c'est se sentir impliqué dans nos sociétés, dans nos communautés, de vouloir venir en aide aux autres et de donner de sa personne des talents que le Seigneur nous a donnés au service des autres.
Sœur Nathalie Albert.
Oui, et ce service, il est pas pour demain, il est dès aujourd'hui. Les jeunes sont l'heure de Dieu, c'est l'expression qui... C'est pas, les jeunes ne sont pas l'avenir de Dieu.
Exactement. Vous n'êtes pas l'avenir, mais le maintenant de Dieu.
Le maintenant de Dieu, oui.
Père Arnaud Franck, le mot de la fin.
Oui, le mot de la fin, pour continuer sur ce chemin, je crois que voilà, c'est un appel à poursuivre le chemin ensemble. Et ce que je trouve beau, c'est que le pape François remet Marie sur ce chemin humain. Il rattache les jeunes à Marie. Ce n'est pas une statue de plâtre qui a vécu très loin, hors de nos réalités. Non, elle est toute proche et c'est très beau, la fin de l'homélie, peut-être d'envoi, pour justement inciter à dire le oui, que Marie nous apprenne, elle qui est en chemin, la première en chemin, qu'elle nous entraîne à dire oui. Voilà ce que disait le pape François à la fin de l'homélie finale et d'envoi. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. Voulez-vous vivre la réalisation de son amour ? Que votre oui continue d'être la porte d'entrée pour que l'Esprit Saint offre une nouvelle Pentecôte au monde et à l'Église.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu ce matin nous faire voyager, nous aider à vivre par procuration ces JMJ de Panama, JMJ 2019, et le prochain rendez-vous c'est donc...
En 2022 à Lisbonne.
Au Portugal.
À Lisbonne. Ça va être moins loin, il y aura
c'est
probablement
juste à côté.
Beaucoup plus de monde.
Et Marie n'est pas loin.
Merci beaucoup, cette émission a été réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. ou par mail à contact@radioprésence.com.